Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. En 80 films, ambitieux, populaires, elle a été bien des femmes, Elsa Silberstein, et souvent des héroïnes. Elle sera d'ailleurs Simone Veil dans le biopic le plus attendu en 2021, Simone, le voyage du siècle. Mais elle incarne aussi à merveille ces anonymes qui nous ressemblent. Et dans la comédie intitulée « Adorable », avec un S, comédie de Solange Sicquerel, qui sort le 29 juillet, eh bien c'est en mère de famille totalement disjonctée par la crise d'adolescence de sa fille de 14 ans qu'on retrouve avec bonheur Elsa Silberstein. Autour d'elle, Max Boublil, Hélène Vincent, Lucien Jean-Baptiste, Yoni Matos. Voilà, rien que du beau monde.
Europe 1.
Bonjour et bienvenue,
bonjour,
Elsa.
Bonjour.
Alors Elsa Silberstein, bon, on le sait tous... Instagram, c'est une sorte de foire aux vanités où chacun poste les meilleures photos de sa vie fantasmée. Mais quand le monde s'arrête pour cause de confinement, bah, comment alors donner le change pour faire croire qu'on continue d'avoir une existence hors norme et passionnante? Vous, Elsa, vous avez trouvé la solution en postant chaque soir du confinement une scénette dans laquelle vous viviez à fond vos délires de mytho. En fait, comme si les premières au cinéma, les voyages et les tournages continuaient. Tout ça, bien sûr, improvisé dans votre appart. Voilà. Et ces sketchs de la mytho du soir sur Instagram sont devenus cultes puisqu'ils ont fini par réunir plus de 100 000 followers. Vous la commencez quand, cette carrière d'humoriste 2.0? Ça y est, c'est lancé, c'est ça?
Pas du tout, non. C'est vraiment le hasard. C'est l'idée m'est venue, je discutais avec Gad Elmaleh au téléphone, on se marrait, on disait « Oh là là, les filles, elles ne peuvent plus partir en soirée, genre, je me fais belle, je me maquille et je pars à une soirée. » J'ai raccroché et j'ai dit à mon amoureux « Tiens, je vais m'habiller, je vais mettre des talons et tu vas me filmer. » Et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je vais pour sortir. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Et je dis, ben, je vais à une soirée. Et puis le lendemain, voilà, je vois que les gens réagissent hyper bien. Je peux pas vous dire, ça me tombait du ciel le truc tous les jours. Comment expliquer ça? C'est très curieux. Parce que je me suis pas dit, tiens, je suis actrice, qu'est-ce que je pourrais faire comme les gens qui ont une guitare et qui font un truc? Vraiment pas. Je me suis pas dit, il faut que je fasse quelque chose pendant le confinement. Pas
non,
du
c'est
tout.
Naturellement.
Voilà, c'est ça qui est très curieux. Même moi, je me l'explique pas. Le deuxième jour, j'ai dit, ah bah tiens, tu sais quoi? Ce soir, je vais partir tourner de nuit. J'ai mis un énorme manteau doudoune, un mug, un scénar sous le bras, un gros bonnet de laine. Et Mickaël me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je dis, je pars tourner de nuit. Voilà. Après, je reçois un bouquet de fleurs pourries. Il me restait 4 tulipes dans mon appartement. Je dis, ah, on m'a livré des fleurs, c'est génial. Puis je reçois un bouquet pourri. Enfin, c'était vraiment au gré des envies, de mon inspiration. Je salue aussi devant un public qui n'est pas là. Je demande qu'on m'enregistre des saluts, des bruits d'applaudissements. Et je salue pareil avec 3 fleurs fanées devant une salle
voilà,
vide, devant
une vie
personne.
Une vie fantasmée, tout ça en plein confinement.
Voilà, en fait, en fait, je pense que ça a fonctionné parce que c'est comme si j'avais rêvé ma vie, que je devenais un réceptacle ou un exutoire pour les gens et que je devenais cette fille libre qui fait ce qu'elle veut. Et comme personne pouvait faire ce qu'il voulait, ben moi je suis allée au café, je suis allée à la plage.
Tout le monde.
Et voilà, j'étais exactement.
Alors vous savez bien sûr, Elsa Silberstein, capable d'une fantaisie et même d'une extravagance irrésistible. Mais là, franchement, vous avez découvert des talents de scénariste, de dialoguiste. La suite de l'aventure, ça pourrait être un film, sérieusement?
Oui, on va voir, j'y pense, mais on va voir. On réfléchit.
Quel est le sketch qui a votre préférence et lequel a le mieux marché auprès des followers?
Alors, c'est un sketch où j'attendais 8 personnes à dîner, où j'avais mis les beaux verres Baccarat d'ailleurs, des belles assiettes, je m'étais mise en noir et mes copains me plantaient. Et je ne comprends pas pourquoi on me plante, je dis mais c'est quoi le problème quoi? Et je disais, mais bon, c'est pas grave, j'ai mis une petite robe noire, mais c'est pas grave, je la garderai pour le Festival de Cannes, quoi.
Voilà.
Voilà. Et il y a eu auprès de presque 200 000 personnes qui ont vu ce sketch. Donc celui-là, après je suis partie sur la Lune aussi. Celui-là, il a bien marché. Je partais en tournage à New York sur un tapis roulant.
Oui, alors le tapis roulant, il faut expliquer comment il était fait.
Un tapis roulant, c'était mythique. C'est-à-dire qu'au départ, je suis montée sur mon aspirateur, puis ça ne marchait pas. Alors du coup, je suis montée sur une valise roulante et mon ami tirait la valise avec sa ceinture.
Pendant qu'il filmait.
Voilà, vous imaginez la scène.
On réinvente
le
cinéma.
Il aurait fallu quelqu'un qui nous filme en train de faire ça, quoi.
Alors jusqu'à présent, en fait, votre public était composé d'amoureux du cinéma et du théâtre. Désormais, il faut compter justement avec vos followers, très nombreux. Et vous avouez que c'est la première fois que vous avez un lien aussi complice.
Ouais,
plus
vrai.
Encore peut-être qu'avec le public qui va voir vos films.
Non, c'est vrai que quand tu fais des films, les gens ils te reconnaissent dans la rue ou bien ils t'arrêtent dans un restaurant. Donc ça, c'est et le bonheur, j'ai envie de dire, soyons positifs, d'Instagram, c'est le lien que j'ai aux gens. Parce qu'effectivement, j'avais 1000 commentaires par jour et je répondais à 200 personnes. Et les gens étaient tellement mignons dans leurs commentaires, mais d'une gentillesse, d'une générosité. Ça m'a donné des ailes. Et eux aussi, ils m'ont aidé à tenir le confinement. Eux aussi, en me disant, allez, vous savez bien qu'Instagram, tu postes une tarte aux framboises, on me dit, c'est pas la saison des framboises. On va te faire foutre. Bon, là, ils m'autorisaient toutes les folies. À un moment, c'était quand même aussi, je dois le dire, c'était aussi un hommage au cinéma que j'ai fait. Je me suis autorisée à rentrer dans des films comme Vincent, François Paul et les autres.
Ouais.
Je rentrais dans un dîner avec Piccoli, Montand, et je commentais ce qu'il disait, ou je m'autorisais à dîner face à Yves Montand en prenant le texte absolu précis de Romy Schneider. Donc, je pense aussi que c'était une mytho, mais une actrice. Quand j'ai osé faire la scène de Romy Schneider avec Yves Montand dans César et Rosalie, j'ai hésité 3 secondes en me disant « Est-ce que tu vas oser reprendre les mots de Romy Schneider ?» Je me suis dit « Si, il faut le faire. » Au contraire, c'est un hommage à cette femme que t'aimes tant et cette actrice que j'adore. Donc je me suis dit « Allons-y. » Puisque finalement, je dénature rien. Je garde le texte.
Alors, pour nous proposer cette aventure, vous aviez juste un iPhone, mais tout de même, cet iPhone, il était dans les mains de la personne idéale, puisque votre amoureux, avec qui vous étiez confiné, donc, est assistant réalisateur.
Ouais.
Et par exemple, il a été l'assistant de Léos Carax pour le prochain film de Carax avec Marion Cotillard et Adam Driver.
Oui. Non, c'est un super assistant, et c'est l'assistant de Claude Lelouch aussi.
Oui.
Principalement, il fait beaucoup de films avec Claude. Donc, c'est bien, c'est un joli... entre Lelouch et Carax, c'est chouette d'être avec des gens différents comme ça. Non, il est brillant. Et j'espère qu'il passera au long métrage un jour.
Mais bien sûr. Mais les gens du métier ont suivi la mytho du soir, Elsa Zilberstein
Oui. En fait, j'ai eu plein de messages adorables. Plein de Sandrine Kiberlin, mon amie actrice, qui était un amour. Plein de copines actrices qui m'ont suivie. Des gens du métier, des réalisateurs, des réalisatrices.
Bon, le 29 juillet, Elsa Zilberstein, dans un film baptisé « Adorable » avec un S, c'est dans un autre personnage qu'on va vous découvrir. Vous êtes psy. Vous avez une fille de 14 ans que vous élevez seule car séparée de son papa. Et après avoir été une enfant délicieuse et fusionnelle, votre fille va devenir une ado... pire qu'infernal. Cette comédie, c'est une sorte de guerre des roses version mère-fille, n'est-ce pas ? Tous les coups sont permis.
Oui, absolument. C'est ce que j'ai senti quand j'ai lu le scénario. J'ai dit, c'est vraiment la guerre des roses entre une mère et une fille. Et ce qui était original, j'avoue, parce qu'il y a eu LOL qui était remarquable de Lisa Azuelos, c'était pas juste la crise d'adolescence d'une fille, parce que ça a été fait. C'était justement la crise d'ado de cette fille de 13 ans qui provoque une crise d'adolescence chez moi. C'est ça que je trouvais très original. C'est en fait de voir sa fille qui se conduit comme ça et qui dépasse les bornes, fait que mon personnage, elle est psy. Elle n'a pas réglé certains problèmes malgré le fait qu'elle soit psy.
Donc elle tombe dans une surenchère avec sa fille.
Voilà, elle tombe dans une surenchère et elle s'interroge aussi sur les rapports qu'elle a eus avec sa propre mère, qui est Hélène Vincent, qui est absolument géniale. Et elle se rend compte qu'elle n'a pas du tout réglé ses problèmes avec sa mère. Et que peut-être qu'elle a reproduit des choses qu'elle n'aurait pas dû reproduire avec sa fille et que sa mère a fait avec elle. Et ça la dépasse. D'un coup, c'est une femme au bord de la crise de nerfs, pratiquement. Et ce qui est original, c'est que c'est finalement une fille de 40 ans qui est en crise d'adolescence.
Alors, votre nature comique, elle rayonne dans ce film. Mais vous dites que, en fait, ce sont les situations qui rendent la comédienne drôle et pas l'inverse. Donc, ce n'est pas en jouant comique qu'on devient drôle. C'est d'abord dû à un décalage de situation, c'est ça ?
En fait, je me sens jamais drôle. En fait, toutes les comédies qui me plaisent, moi, c'est quand c'est la situation qui est drôle. Si tu joues, moi j'aime Woody Allen, vous imaginez, tout est joué comme si c'était un drame. Donc tu joues les scènes, quand elle est énervée avec sa fille, je vais pas ne pas le faire parce qu'on se dit c'est une comédie, non. Donc c'est joué pleinement, les scènes étaient génialement écrites. Donc il y avait une matière démente à partir en folie, quoi.
Europe 1.
Eh bien, c'est en compagnie d'Elsa Zilberstein qu'on se balade cet après-midi. Elsa, qui est à l'affiche de Adorable, qui sort en salle le 29 juillet. On se retrouve tout de suite.
Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Cet après-midi, Isabelle Morizet retrace le parcours de l'actrice Elsa Zilberstein.
Elsa Zilberstein est à l'affiche d'une comédie déjantée sur fond de crise d'adolescence baptisée Adorable avec un S. Et en salle le 29 juillet prochain et cet après-midi, eh bien, on voyage ensemble. Alors, chère Elsa, Vous avez grandi dans une famille qui avait le sens du panache. Hein. Votre père est le physicien Albert Silberstein, qui a travaillé avec le prix Nobel de physique Sir Neville Mott. Et votre grand-mère paternelle, d'origine russe, était digne d'une héroïne de Tchekhov, tout en excès assumé, avec un goût très sûr du spectacle. Comment grandit-on auprès de tempéraments si forts?
Pas évident. Pas évident. Oui, mon père a un fort caractère. Donc, et ma grand-mère était assez incroyable. Non, mais voilà, moi j'étais une enfant très timide. Hein, donc j'étais très timide, je faisais beaucoup de danse classique. Et je crois que c'est le cinéma, c'est le théâtre qui m'a... C'est mon métier qui m'a sauvée, qui m'a révélée.
Plus que désinhibée, carrément sauvée.
Ouais, totalement. Quand tu n'arrives pas encore à sortir des mots, parce que tu es très timide, la danse, le corps me permettaient de m'exprimer.
Oui.
Mais,
c'était donc, un début.
Un début. La professeure voulait que j'aille à l'opéra, d'ailleurs. Je n'ai pas voulu. Et après, j'ai dit non, je veux être actrice. Je ne sais pas d'où c'est sorti.
Mais justement, restons un petit moment dans cet univers de l'enfance, celle dans laquelle vous étiez immergée. Bon, il paraît que le dimanche, c'est votre grand-mère paternelle, qui était originaire de Lituanie. C'est une certaine Russie qui réapparaissait avec les anciens amis du Bolchoï, pour lesquels elle avait travaillé. Des chefs d'orchestre, beaucoup de musiciens, des Russes blancs, mais aussi des rescapés des camps. On goûtait des pirovski, on buvait du zbiten à base de miel et d'épices. Les conversations étaient pleines de fougue, il y avait de la musique partout. Ça, c'était comme une scène de théâtre, finalement. Vous étiez observatrice ou pas?
Non.
Vous aviez conscience
comme ça.
Vous l'avez vécu comment?
Non. Je vous dis, comme une petite fille, hein, très dans sa petite bulle. Je trouvais ça chouette, on allait là le dimanche, mais c'était pas ma vie. C'était pas du tout ma vie. Moi, j'ai été élevée à la campagne, sur une colline. Quand je dis à la campagne, c'est à 50 minutes de Paris, donc ça me paraît bête de dire la campagne aujourd'hui, mais c'est la vérité.
Ouais.
C'est pas du tout la même enfance quand tu grandis au métro, je sais pas, la mode piquet, que t'es le café à côté, à 13 ans t'es au café. Pas du tout, moi. Moi, j'étais isolée dans une résidence, plutôt en banlieue parisienne, dans une campagne très jolie, mais pas du tout dans... J'étais comme une petite huître... pas ouverte jusqu'à 18 ans, en fait.
Pourquoi avez-vous refusé, par exemple, de passer le concours de l'Opéra de Paris, puisque votre professeur de danse a insisté plusieurs fois auprès de vos parents, vous étiez très douée, elle tenait absolument à ce que vous passiez ce concours. C'est vous qui avez dit non?
Oui, parce que je ne voulais pas quitter ma mère, je ne voulais pas quitter mes parents. Donc, il fallait partir à l'Opéra, il fallait partir vivre ailleurs à 13 ou 14 ans. Et je pense que aussi décider de sa vie si jeune, je n'avais pas envie. Et je pense que quand ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Quand je suis arrivée au cours de théâtre, au cours Florent, à 17 ans, et que j'ai dit au bout du premier cours, quand tu es timide et que d'autres gens te regardent, la timidité s'envole. C'est-à-dire que tu es timide dans le regard des autres, des gens qui te connaissent. Dès lors où tu vas ailleurs, que tu arrives, tu as beau avoir jamais un petit peu
la page est vierge.
Oui, la page est vierge. On te regarde et tout d'un coup, tu es nouvelle. Tout est à réinventer. Et je suis rentrée, j'ai dit c'est ma vie. Avec la danse, il y avait aussi que j'avais perdu du temps. J'avais déjà 15 ans ou 14 ans. Je me disais, je voulais être au top. Je me suis dit, bon, si je suis danseuse, je vais être danseuse étoile. Donc, il faut que je fasse 3 tours sur pointe à 10 ans ou à 11 ans. Ah, je vois qu'il y a déjà des filles qui dansent mieux que moi. C'est quand même une compétition. C'est un truc sacrément dur. Enfin, ça ne me fait pas peur, la dureté. Ce n'était pas ça qui me faisait peur. Mais je pense que ce n'était pas ça. Par contre, pour le corps... C'est vrai que quand je travaille tous mes rôles, le corps, le fait que je sois habile avec mon corps et que j'ai dansé,
une chorégraphie
ça a été
au cœur du nouveau film qui sort le 29 juillet. Adorable.
Ah oui, on a dansé, il y a une chorégraphie. Donc ça aide pour jouer la comédie, puisque de jouer la comédie, c'est pas du tout que les yeux. C'est les yeux, mais c'est d'abord le corps qui exprime quelque chose.
Je reste un moment sur l'enfance. Il paraît que votre idole, quand vous étiez enfant, était Isabelle Adjani. Mais vous n'aviez que 6 ans lorsqu'Adjani incarna de façon prodigieuse Ondine sur la scène de la Comédie française.
Vous ne l'avez pas vue.
Et la même année, d'ailleurs, elle s'est imposée face à Lino Ventura dans La Gifle de Pinotto. Alors, vous l'avez découverte par quel film, Adjani?
Dans ma petite chambre, il y avait une petite télé noir et blanc. Je me rappelle, mes parents avaient une belle télé. Moi, on m'avait donné une vieille télé. Et j'avais vu Adèle H.
Ah, et vous êtes projetée?
Ah ouais, totalement. Et j'avais vu La Gifle aussi. Et je me suis dit, waouh, ça m'inspire. Et je sais pas, je me suis projetée. Ouais. D'ailleurs, les premières auditions, je me rappellerai toujours, j'avais pas d'agent. Et un jour, j'ai eu rendez-vous avec un agent. Et cette dame, qui était adorable d'ailleurs, me dit « Mais comment je fais? Je ne vous ai pas vu jouer. » Et là, je dis « Attendez deux secondes. » Je me suis retournée et j'ai fait le monologue d'Adèle H. dans le bureau de la dame.
Elle a été immédiatement convaincue.
Ouais, elle m'a prise direct.
Direct. Mais je repars un petit peu en arrière, Elsa Zilberstein. Il paraît que par le plus grand des hasards, en fait, dans un avion, c'est l'actrice Charlotte Rampling qui vous a...
Hein.
Ah, ouais,
wow.
C'est Charlotte Rampling qui vous a donné une sorte de plan-sein pour ce métier en discutant avec votre papa.
En fait, au moment où j'ai dit je veux être actrice, mon père a pris un avion à Paris-New York et hasard, mais moi je ne crois pas au hasard, il s'est retrouvé quelques rangs derrière Charlotte Rampling. Il a osé aller lui parler, lui dire « Ma fille veut être actrice, mais elle a 16 ans et demi, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et elle a dit « Écoutez, qu'elle aille au cours Florent à 17 ans et qu'elle aille rencontrer mon agent. » Adorable.
Ah, carrément.
Ouais. Et j'ai fait les deux. Quand j'ai rencontré Charlotte pour la première fois, je lui ai dit, Charlotte, faut que je vous dise, vraiment, c'est grâce à vous. Vous savez, quand vous n'êtes pas dans ce métier, moi, je ne connaissais rien, on ne connaissait rien. Tu ne sais pas où il faut aller, dans quelle école, rien. Je comprends les gens quand ils sont isolés, ils ne savent pas ce que c'est ce métier, ça paraît une montagne.
Donc, à votre tour, aujourd'hui, vous conseillez à de jeunes comédiennes, aspirantes comédiennes qui viennent vous voir, par exemple, d'aller à tel cours.
Moi, je dis le cours Florent est bien. Après, non, je peux toujours conseiller. En tout cas, je conseille de travailler. Voilà. Je trouve que les jeunes filles qui sont venues me voir, il y en a beaucoup. Et je sens qu'elles veulent être connues avant d'être actrices. Et je dis attention. Comme m'a dit Bessner, Dominique, un jour, il a dit un truc tellement beau. Il m'a dit « Ah, mais vous, de toute façon... vous vouliez quoi? Vous vouliez juste avoir deux phrases dans un film. » Et c'est vrai qu'à 17 ans, on était au cours de théâtre, il y avait des castings et tout. Mais quand j'ai fait le casting pour le Van Gogh de Piala, mais je ne peux pas vous dire, quoi. C'était un rêve et j'ai été retenue pour être Silhouette et j'étais tellement heureuse.
Mais on va l'évoquer parce que ça relève de la magie.
Voilà, et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce que je dis, c'est travailler votre art d'abord.
Oui, effectivement, il ne faut pas croire au hasard, il faut croire en sa chance et rêver fort. On retrouve immédiatement, après une courte pause, Elsa Zilberstein.
Europe 1. Il est 15h22 et on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de sa conversation avec son invitée cet après-midi. Une comédienne sortie des cours Florent, Elsa Zilberstein, à l'affiche d'une comédie le 29 juillet prochain, baptisée Adorable au pluriel.
Elsa Zilberstein, alors vous nous avez dit que, effectivement, lorsque vous êtes inscrite au cours Florent, vous êtes rentrée le premier jour en vous exclamant de vos parents que ça y est, vous le saviez, vous aviez trouvé votre voie. Un an et demi plus tard, vous vous retrouvez dans la prestigieuse classe libre, dirigée par Francis Huster. Et alors, dans cette classe, qui en même temps que vous rêvait de cinéma, rêvait de théâtre?
Il y avait Clotilde Courault, Olivier Martinez, Isabelle Carré... Sandrine Kiberlin aussi, mais pas, on n'était pas dans la même classe. Édouard Baird. On se croisait tous dans les couloirs. On était tous là, quoi. Et c'était une super promotion.
Vous avez donc quitté votre chambre d'adolescente à jouer en Josette chez vos parents pour vous installer à Montmartre, c'est ça, chez votre grand-mère russe. Ça s'est passé comme
pas
ça
à Montmartre, non. Pendant un an, je faisais 2 heures de trajet tous les jours. Je rentrais chez mes parents.
Oui.
Et puis, comme c'était compliqué, parce que je travaillais beaucoup, je faisais une fac d'anglais en même temps. Donc, en fait, entre les cours le matin, la fac l'après-midi, aller au théâtre, répéter, parce que je travaillais 5 scènes en même temps, j'étais sur scène tout le temps, c'était compliqué de rentrer à partir de 19h, s'il fallait aller au théâtre le soir.
La fac, c'était pour rassurer les parents?
Non, c'était moi. Non.
Parce que vous songiez déjà à une carrière internationale? Pour ça, fac d'anglais?
Non, peut-être pas. Pour rassurer, disons que mon père m'avait dit il voulait que je rentre en fac aussi. Donc, parce que vous allez vous marrer. Quand j'étais en fac, donc j'ai suivi quand même les cours. Et quand j'étais à la cafétéria avec les gens de la fac, je me rappelle, je disais « Ah non, mais moi, je ne vais pas du tout être avec vous, là. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi, je suis actrice. Donc, en fait, là, je suis là, mais je ne suis pas là. » Donc, j'étais que dans un sens. Je ne voulais tellement pas qu'on croit que j'intégrais la fac. J'arrêtais pas de dire, mais moi je n'appartiens pas du tout à cette fac.
Mais vous êtes restée combien de temps? Vous leur
pas
avez répété
parce que
ça pendant combien de temps?
Comme j'ai très vite commencé le métier d'actrice, enfin, j'ai eu la chance de commencer très tôt, donc très vite, enfin, au bout d'un an et demi, j'ai évidemment pas eu mes UV, enfin, tout ce qu'il fallait pas. Oui. J'étais vraiment. Voilà.
Alors, parallèlement au cours Florent, vous couriez les castings?
En fait, au cours Florent, naturellement, il y avait des castings, donc on nous envoyait. On nous envoyait à des castings et en plus, comme moi, j'étais tenace, j'avais décidé, tout le monde à cette époque-là, on faisait un book de photos, vous voyez, tu fais un book. Alors moi, je descendais les Champs-Élysées avec mon book de photos. Je me dis, peut-être que mes des productions sur les Champs-Élysées. Donc, des fois, je frappais à des portes, je disais bonjour, je montrais mes photos.
Ça n'a jamais fonctionné comme ça.
Bah si, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours cru ma bonne étoile et j'avais rencontré René Ferret, qui était un monsieur que j'aimais beaucoup et qui avait été adorable. J'avais pris un thé avec lui et bon, il m'avait donné une petite figuration dans son film. Voilà.
En tout cas, vous êtes la preuve vivante, Elsa Zilberstein, qu'on peut intégrer un casting comme figurante et se retrouver le deuxième jour de tournage avec un vrai rôle. Mm-hmm. C'était bien sûr sur le Van Gogh que dirigeait Maurice Pialat, Van Gogh avec Dutronc dans le rôle-titre. Il paraît qu'il a suffi de deux répliques pour que Pialat vous pousse devant la caméra, c'est ça ?
Ouais, c'est vraiment le destin. J'étais assise dans l'herbe, je dis de l'herbe parce qu'on était des filles des bords de l'eau.
Oui, dans cette scène-là.
Dans cette scène-là, et on attendait dehors. Et puis, le premier jour, il s'est engueulé avec une fille qui l'a virée. Et le lendemain, on m'a dit, ben, la fille que tu as vue hier, elle jouait la prostituée, il l'a virée. Bon, il va choisir quelqu'un d'autre. Et là, on était quatre nanas, dont certaines filles qui ne voulaient pas du tout être actrices. Donc les filles m'ont dit, oh là là, nous, on ne veut pas le faire. Je dis, ben, de toute façon, ça va être moi. Et j'étais sûre que je le ferais. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Et on est venu nous donner un texte. Et il est arrivé, puis là, il a dit, n'apprends pas, c'est comme ça qu'on devient mauvaise. Alors je dis, bah, je regarde quand même la première phrase pour vous la dire. Et la première phrase, en plus, elle est drôle parce que quand j'y repense, elle a du sens. C'était « Ah, le monde est petit, quand ils m'ont parlé de toi, je me suis dit, c'est lui. » Et il m'a dit « C'est bon, t'as le rôle, va t'habiller. » Et on m'a prise, on est allé me mettre une robe rouge qui est trop grande pour moi, du coup. La fille qui avait le rôle, qui a été virée, elle était coiffeuse, hein, quand même, oui, pour replacer. Oui. Hein, elle n'était pas du tout actrice. Il avait promis à la coiffeuse du film le rôle. Et donc, voilà, je suis arrivée près de Maurice et il m'a dit « Va dire ça à Dutronc. » Alors, je suis allée voir Dutronc. J'étais quand même intimidée, vous imaginez. Et puis je suis revenue, il m'a dit, mais pas comme ça, on dirait une écolière. Bon, ben moi j'avais 18 ans et demi, hein. Je connaissais rien à la vie, c'était pour jouer une pute. Donc, et puis voilà, et puis après il m'a pris sous son aile, il m'a parlé, il était incroyable. Et...
À cette époque-là, voilà. Vous avez songé à changer de nom.
Oui.
N'est-ce pas, vous craignez qu'il soit trop compliqué à prononcer. Et c'est Pialat qui vous en a dissuadé.
Ouais, parce que je dis à ma mère, peut-être ça serait bien de changer mon nom. Tiens, d'ailleurs, il y a une petite anecdote drôle. Ma grand-mère, à un moment, quand je commençais à peine, j'avais deux, trois petits castings pour un truc télé, je ne sais plus. Et j'avais dit à ma grand-mère, ben non, ben ils ne m'ont pas prise, mamie, parce qu'ils voulaient un petit nom. Quelqu'un d'un peu connu, quoi, un petit nom. Elle me dit, alors, ils ne peuvent pas couper un peu ton nom en deux? Et alors, du coup, Zilberstein, je me suis dit, tiens, ouais, couper en deux, peut-être Steiner. J'adorais Truffaut. Je me dis, ça fait très héroïne de Truffaut.
Oui.
Tiens, je vais m'appeler Elsa Steiner. Et en fait, Maurice m'a dit, mais non, on dirait une marque de canapé, tu gardes Zilberstein. Bon. Ça s'était plié.
Il a bien fait. Et la suite est prodigieuse et rare, tout de même, parce qu'en 3 ans, Elsa Zilberstein, vous avez été 3 fois nommée au César du meilleur espoir féminin. En 92 pour Van Gogh, en 93 pour Beau Fixe, en 95 pour Mina Tannenbaum. Alors, ce César, on ne vous l'a pas donné, mais plus tard, vous avez décroché un César de la meilleure actrice. En fait, quand on démarre, franchement, être nommée 3 fois de suite au César du meilleur espoir féminin, donc ça vaut le César.
Oui, oui, non mais... Peu importe, c'était super. Les Césars.
Non, mais c'est rare, 3 fois de suite. Oh,
oui, oui. Pour moi, le cadeau, c'est d'avoir un rôle. Donc, tout ça est dit dans les rôles que j'ai faits. Et j'étais heureuse d'être nommée, bien sûr, parce que c'est une cerise sur le gâteau et je crache pas dessus. C'était chouette, vraiment. Non, c'était merveilleux. C'est un petit peu comme si on me disait, t'es récompensée. On a remarqué ta performance. Donc, forcément, c'est super. Je vais pas cracher dessus.
Peut-être dans un large sourire. Elsa Zilberstein, qu'on retrouve tout de suite.
Europe 1. Des confessions, des confidences, toujours et encore, vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Le tête-à-tête entre Isabelle Morizet et son invité se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1. Aujourd'hui, elle reçoit une actrice qui a fait ses débuts dans Van Gogh de Maurice Pialat. C'est Elsa Zilberstein.
Cette comédienne est un Stradivarius. Les cinéastes de tous horizons le savent, de Raoul Ruiz à Claude Lelouch, en passant par Philippe Claudel ou Olivier Dahan, et désormais Solange Sicurel qui signe une comédie intitulée Adorable, comédie qui sort en salle le 29 juillet. Alors Elsa Zilberstein, il y a une phrase très courte dans votre bio qui dit que vous avez suivi à New York les cours de l'Actor Studio. Ça mérite franchement un développement. Mm-hmm. Vous aviez quel âge quand vous êtes partie à New York et vous attendiez quoi de l'Acteur Studio par rapport à ce qu'on vous enseignait au cours Florent? Est-ce que vous avez trouvé en fait ce que vous espériez?
Oui. Oui. Non, c'était très bien d'être au cours Florent. Et puis, très vite, ça m'a... Je me suis dit, il y a d'autres manières de faire. Donc, J'ai eu la chance de rencontrer un professeur extraordinaire. Voilà. Et je suis partie à New York un mois à faire un stage avec lui. Et puis, je ne l'ai jamais perdu. Enfin, j'ai toujours suivi ce prof, hein, en fait. Je travaille toujours avec lui.
Mais expliquez-nous, c'est facile pour une jeune Française inconnue à l'époque de s'inscrire à l'Actor Studio ?
En fait, il se trouve que quand j'ai fait le Van Gogh, j'ai eu le prix Michel Simon. Et c'est Arthur Penn qui m'a remis le prix. Et Arthur Penn m'a fait venir en auditeur libre à l'Actor Studio. Donc j'ai commencé à suivre en auditeur libre, hein, donc je n'ai pas participé du tout.
Oui.
Après, je ne pouvais pas intégrer l'Actor Studio, puisqu'il fallait être membre et tout ça. Et du coup, j'ai essayé de voir comment je pouvais, moi, rencontrer. Et j'ai ce prof qui est membre de l'Actor Studio, qui donne des stages en dehors de l'Actor Studio.
D'accord.
Vous voyez ? Donc, je travaille avec lui depuis des années. Voilà.
Et bon, tout était en fait, on va dire, en place, car vous aviez fait une fac d'anglais, vous étiez parfaitement bilingue, donc tout allait bien. Alors, lorsque vous avez passé pour Tarantino le casting de Pulp Fiction, parce que vous l'avez fait ce casting de Pulp Fiction, ça j'imagine que c'était plus tard, vous étiez déjà rentrée en France depuis un petit moment, n'est-ce pas ?
Non, mais j'ai jamais vécu en Amérique, c'était des moments où je partais... un mois comme ça, et ça c'était peut-être quand j'étais justement faire ce stage, j'avais loué une chambre avec les murs qui se décollaient, dégoûtants et tout, il n'y avait pas de téléphone, il fallait téléphoner dans la buanderie en sous-sol, et mon premier essai dans un film en anglais, c'était pour Pulp Fiction, donc je suis allée chez Miramax faire des essais, et le cadeau de la vie, c'est 20 ans après, un peu plus même de 20 ans, 25 ans après.
Vous avez tourné avec le scénariste ?
Oui, j'ai tourné d'abord avec le scénariste, Roger Avary. Et surtout, je connais un peu Tarantino. Et donc, quand je lui ai dit que j'avais passé les essais, il m'a dit, je vais retrouver tes essais. Je dis, non, ça devait être très mauvais, les retrouve pas. Et j'étais dans la voiture avec lui. Et il était en train de refaire la scène que j'ai jouée aux essais. C'est-à-dire qu'il se rappelait du texte, évidemment.
Et donc, vous l'avez rejoué pour lui.
Voilà. Et donc, du coup, le cadeau, c'était ça. Et je me dis, la vie est dingue. Finalement, t'as pas eu le rôle, mais le cadeau, il vient 20 ans après. Et tu fais le dialogue avec le réal dans la voiture.
Bon, depuis, comme Deneuve, que vous admirez tant, eh bien, vous n'avez cessé d'alterner les films d'auteur, ambitieux, des comédies populaires, comme le fait d'ailleurs Meryl Streep, comme le fait Cate Blanchett ou Julianne Moore. Mais le point commun chez toutes les héroïnes que vous incarnez, Elsa Zilberstein, c'est une forme d'excès, de déraison. Ça vous ressemble ? Elles ont souvent ce carburant-là en elles, la déraison, vos héroïnes.
J'aime pas les gens raisonnables. J'aime pas quand c'est trop raisonnable. Et en tout cas, au-delà de moi, au cinéma, c'est plus cinématographique la déraison que la raison. C'est plus cinématographique le chaos, c'est plus cinématographique des personnages sur le fil, des héroïnes qui flanchent. Donc c'est ça qui m'intéresse, évidemment. C'est me perdre dans les méandres de rôles troubles, fous, barrés, de tester mes propres limites. C'est ça qui est intéressant.
Vous avez tourné 5 films avec Raoul Ruiz, 3 avec Claude Lelouch. La fidélité existe donc dans ce métier.
Oh oui, oh là là, tellement. Tellement.
Oh là là, à ce point, c'est vrai ?
Ah oui, Claude, c'est ma famille, je l'aime d'amour, Claude Lelouch. C'est un homme extraordinaire, c'est un homme important dans ma vie, très important, bien sûr.
Alors, Claude, on a compris, et Raoul était Ruiz, un homme... Parce que tout de même,
ouais, Raoul
cinq,
aussi,
n'est-ce pas ?
Raoul, c'était une sorte de... comme un grand-oncle. Raoul était merveilleux, c'était un enfant. Ils ont la particularité d'être des enfants, moi j'aime les enfants, enfin, j'aime les... Je trouve que, pourquoi j'aime en fait les acteurs et les gens de mon métier, c'est que je trouve qu'il y a une folie. On n'est jamais devenu des adultes. On n'est pas devenu des adultes. Et en fait, moi, je pense que je n'ai jamais voulu devenir une adulte. Et je pense que j'aime bien ce métier parce que je rencontre que des gens un peu enfants qui ne sont jamais devenus des adultes.
Elsa Zilberstein, pourquoi autant de films ? Vous en avez 5 qui sortent dans l'année qui vient et rien pour la télé ?
Oh, mais c'est pas du tout volontaire. Si on me propose une série télé, je le ferai.
Vous voulez dire qu'on ne vous fait pas signe ?
Pour des séries télé, j'ai lu des trucs qui ne me plaisaient pas, honnêtement. Là, on m'en a proposé une, donc on va voir, j'attends de lire. Enfin, les trucs télé qu'on m'avait proposés ne me plaisaient pas. Voilà. Mais je serais ravie d'en faire.
Parce que les plus grands cinéastes aujourd'hui signent des séries pour la télé.
Non, alors,
par
je dois
exemple,
dire
quand
que
Scorsese... dites-nous.
Non, on m'avait proposé le Bureau des légendes. Et malheureusement, donc, oui, ça j'avais quand même oublié, j'étais très honorée, j'adore Rochand et j'avais vraiment envie de le faire. Et ça tombait pile au même moment que le tournage du film de Claude Lelouch avec Jean Dujardin en Inde. Donc, voilà.
Voilà, parce que cette série est devenue culte.
Donc voilà, dommage, c'est la vie.
Alors, je reparle de Scorsese, parce qu'effectivement, les plus grands cinéastes aujourd'hui signent des séries pour la télé. Et Scorsese, par exemple, quand il s'est agi de trouver le financement d'un projet à 150 millions de dollars pour un film et il n'y est pas parvenu, c'est vers Netflix qu'il s'est tourné, Netflix qui lui a ouvert les bras. Mais ça risque quand même tout ça de changer la donne. Les films projetés en salle seront de moins en moins nombreux et les plus grands réalisateurs vont changer de support, en fait. Regardez son film sur un écran d'ordinateur, ça n'est peut-être pas la même émotion.
Ah, ça, c'est certain. Moi, je suis très optimiste pour la salle. C'est comme si on avait dit, il y a des restaurants, les gens mangeront plus chez eux ou vice-versa. C'est-à-dire que, alors bizarrement, moi, je pense que même avec le confinement, le fait d'être resté chez soi en pantoufles et que l'animal, enfin, de domestique, de Netflix, des séries, c'est formidable. Mais ça ne remplace pas une sortie au cinéma sur un grand écran. Donc voilà, je suis une adepte de ça. Après, je veux y croire et je pense que la sortie est quand même, c'est quand même magique d'aller au cinéma. Et encore plus aujourd'hui, je trouve. Après, vous parlez d'un autre problème. Certains réalisateurs comme Scorsese ou d'autres que j'admire tant n'ont pas pu monter leurs films parce que c'est des films à 200 millions. Donc effectivement, là, ils ont des ponts d'or où quand Alfonso Cuarón fait Roma, ils ont des ponts d'or tout à coup avec Netflix, ce qui est formidable, ce qui est vraiment formidable. Moi, je dis qu'il faut tout. Je vais commencer le film de Jean-Pierre Jeunet, c'est produit par Netflix, vous voyez. Donc je ne peux pas être plus... Et pareil, c'est un film qui n'arrivait pas à trouver le financement et Jean-Pierre Jeunet... Netflix fait une série de 3 films européens et c'est le film français choisi. Donc, c'est super, finalement, que Netflix il va financer le film de Jeunet. Donc, je crois qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Bêtement, je dis ça, mais je pense que c'est formidable que Irishman ait trouvé le financement et qu'aujourd'hui, il puisse trouver un écho. Mariage Story, peut-être que le film aurait eu du mal à se faire, de Noah Baumbach, que j'ai adoré. Peut-être que le film aurait du mal à se faire pour le cinéma. Donc tant
vous
mieux.
Dites que tout ça est complémentaire.
Ouais, ouais.
Alors, vous dites aussi qu'elle est complexe, la notoriété donnée par le cinéma. En fait, elle est à la fois plus noble et beaucoup plus fragile que la notoriété donnée par la télé.
Ah non, c'est le contraire que je pense.
C'est vrai.
Je pense que la notoriété de cinéma est beaucoup plus profonde et la notoriété de télévision est plus instantanée. Après, elle peut disparaître. Mais tu rentres dans les foyers des gens, donc forcément, c'est une notoriété beaucoup plus forte sur l'instant.
Voilà, c'est pour ça qu'en opposition, je disais que celle du cinéma est fragile parce qu'il n'y a pas la récurrence.
Non, je la trouve plus profonde, moi. Je la trouve plus profonde parce que tu fais partie du cœur des gens et les films, ils passent à la télé. Et tu fais partie de l'émotionnel et de l'histoire des gens.
Alors, j'ai dit plus noble, vous dites plus profonde, Elsa.
Oui, plus profonde. C'est une notoriété plus profonde. Effectivement, tu fais une série télé à la télé, bien sûr, c'est une notoriété démente et c'est génial. Mais je sens que peu importe du moment qu'on fait notre art.
Voilà. On retrouve tout de suite Elsa Zilberstein.
Europe 1. Il est 15h43 pratiquement, vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invitée Elsa Zilberstein.
Elsa Zilberstein est toutes les femmes. Elle est Emma dans la comédie qui sort en salle le 29 juillet, baptisée Adorable. Elle sera Audrey dans Tout nous sourit en novembre, une comédie qui a remporté le prix en fait, du jury du Festival de l'Alpe d'Huez. Et en 2021, nous la découvrirons dans le biopic très attendu de Simone Veil, dirigé par Olivier Daron, qui avait dirigé Marion Cotillard dans La Môme. Elsa, à quoi avez-vous renoncé dans la vie vraie, ou peut-être pas d'ailleurs, mais pour être une actrice totalement disponible?
Très bonne question. En fait, je ne crois pas au renoncement. Dès lors où il y a du sacrifice, c'est que ça ne va pas. Moi, j'ai renoncé à rien. J'ai fait des choix. Mmh. Donc, des choix profonds et qui me ressemblent. Et des fois, tu te dis... c'est même pas des choix que j'ai conscients. Il fallait que je devienne actrice. Je ne pouvais pas faire autrement, en fait.
Mais parce que tous les métiers n'impactent pas... la vie privée. Et d'une certaine façon, le métier d'actrice, lui, il impacte la vie privée. Par exemple, fonder une famille n'était pas prioritaire. C'est plus compliqué
non,
quand on a
pas,
ce métier de nomade.
Oui, mais il y en a plein qui ont fondé des familles. Il y a plein d'amis actrices qui ont fondé des familles. Donc, je pense qu'on peut le faire. Je pense que c'est beaucoup plus... Je pense pas du tout que le métier d'actrice empêche de quoi que ce soit. Au contraire, ça rend plus fort. Non, ou plus fragile, selon. Mais je ne pense pas du tout que ça empêche quoi que ce soit. Après, t'es aidé, t'es suivi, t'es des nounous, tu peux être accompagné. J'ai plein d'amis qui sont comme ça. Non, je pensais beaucoup à d'autres choses. Non, pas du tout au métier d'actrice.
Elsa, il y a 20 ans, vous disiez dans une interview donnée à Paris Match que jouer une relation mère-enfant, ça vous faisait un tout petit peu peur car vous n'aviez pas d'enfant. Bon, le scénario adorable qui sort en salle le 29 juillet, il est fondé, lui, presque exclusivement sur une relation mère-fille qui implose à la crise d'adolescence de la fille qui a 14 ans. Alors, bon, c'est sûr, une actrice n'a pas besoin d'être infirmière pour jouer une infirmière, elle n'a pas besoin d'être amoureuse pour jouer une amoureuse. Mais moi, j'aimerais savoir comment vous l'avez abordée, en fait, cette relation mère-enfant que vous n'avez pas expérimenté dans la vie.
Bah, vous avez déjà répondu, finalement. Si j'avais dû être tous les personnages que j'ai joués, c'est exactement pareil pour jouer une mère. C'était, pour moi, c'était exactement pareil. Même si je ne l'ai pas expérimenté. C'est de l'amour, non ?
C'est de l'amour.
Voilà. Donc, quand j'ai joué, je ne sais plus quel rôle, une peintre, je n'ai jamais été peintre, mais ça, c'est encore plus difficile. Finalement, ce n'était pas plus difficile que ça. C'était des situations... Non, ça ne m'a pas semblé...
C'était
j'ai
même
déjà
au contraire...
joué des mères et j'ai aucun problème avec
très
ça.
Très facile, et... justement.
Ben oui, parce que ma maman était une tellement merveilleuse maman que je sais le contraire.
Elsa Zilberstein, on est souvent venu vous chercher pour jouer des héroïnes de l'histoire. L'épouse de Léon Blum qui demande à suivre son mari au camp de Buchenwald. L'épouse de Stefan Zweig, qui par amour d'ailleurs se donne la mort avec lui. Anna Arendt, la grande philosophe allemande. Et puis bientôt Simone Veil, donc portée au cinéma par Olivier Dahan, qui, comme je l'ai dit, a signé La Môme, donc oscarisée au travers de Marion Cotillard. Voilà l'histoire de Piaf. Simone Veil, donc, ce sera sous le titre de Simone, Le Voyage du siècle, qui sortira l'année prochaine en salle. Bon, ce film, il est extrêmement attendu pour mille raisons. Certains prédisent déjà un chef-d'œuvre. Vous êtes entouré de Philippe Torreton, Olivier Gourmet, Sylvie Testu, entre autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous révéler de cette aventure ?
Pour l'instant, pas grand-chose. Je reviendrai pour vous en parler.
Oui, mais...
Tout ce que je peux dire, c'est que c'était...
Est-ce que
important
on va dire
et
que
un
c'est
honneur
le...
de jouer une femme comme celle-ci et que c'est une femme... hors du commun et que c'était quelque chose de précieux, de... Ouais, de...
Peut-on dire, par exemple, que c'est jusqu'à ce jour votre plus grand défi au cinéma ?
Oui.
Ça, on peut.
Oui. Ça, on peut. Ouais. C'était une aventure incroyable et un challenge. Et puis, c'est une femme hors du commun et qui marque l'histoire et qui s'est conduite comme une femme... extraordinaire. Voilà.
Alors, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Comment reproduit-on la voix, le regard de Simone Veil ?
Ça, je vous en parlerai quand le film sortira.
Bon, la date de sortie, c'est ?
Oh, dans longtemps. Je ne sais pas, dans 8 mois à peu près.
Dans 8 mois à peu près ?
Ouais, 9 mois. Ouais, 9 mois.
Bon, on fait une petite pause. Et puis, on retrouve tout de suite Elsa Zilberstein, parce que j'ai plein de questions à lui poser, auxquelles j'espère elle va répondre. À tout de suite.
Europe 1. 16h52, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite est fin sur Europe 1 cet après-midi. La comédienne Elsa Zilberstein est l'invitée d'Isabelle Morizet.
Elsa Zilberstein, vous dites « Parfois je retrouve des gens que j'ai pas vus depuis 10 ans et je me rends compte que selon les métiers, les figures, les visages n'évoluent pas de la même manière. Quand on est actrice, il y a des parts de soi qui s'ouvrent. Alors selon vous, comment évoluent les visages qui vivent devant des caméras ?»
Oui, j'ai toujours pensé que les visages des gens évoluent avec les métiers qu'ils faisaient. Ouais. C'est intéressant. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Et peut-être quand on fait notre métier, il y a toutes ces parts d'ombre, ces parts sombres qui s'ouvrent. Parce que finalement, on exulte. Il y a quelque chose de nous qui sortons... poussé par un metteur en scène, par une situation. Je sais pas, j'adore la journée quand je vois une scène hyper difficile au cinéma, que tu as été poussé par ton réalisateur, que tu es allé vraiment te lacérer les boyaux en jouant un truc hyper dur, et qu'après tu bois un verre de vin, t'es bien, quoi. Tu te dis putain, il n'y a rien de mieux, quoi. Et je pense qu'il y a des choses qui sortent. Nous, on a la chance que ça puisse sortir. On est toujours, ça, Isabelle Huppert m'a dit ça un jour, on est toujours plus beau quand on sort de scène, ou une actrice qui vient de jouer une scène.
On irradie, on rayonne.
On irradie, ouais. Et il y a quelque chose
Mais ça relève de la thérapie, en fait, cet art.
Non, parce que ça, je pense que c'est encore autre chose, la thérapie, moi. Donc, mais peut-être une partie inconsciente ou de réparation dans certains endroits.
De réparation.
C'est complexe, hein. C'est difficile que je ne sais pas tout, mais je ne sais pas tout, mais ouais, voilà.
Elsa Zilberstein, vous êtes l'une des actrices françaises les plus sollicitées, hein, c'est sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, 5 films à l'affiche pour l'année en cours, avec le très attendu biopic sur Simone Veil qui sort en 2021. Mais lorsque l'actrice redevient une femme qui n'incarne en fait personne d'autre qu'elle-même, bah à quoi ressemble sa vie? Où sont vos ports d'attache?
Ma vie est cinéma tout le temps. Donc
Allez, lorsque vous lâchez les scénarios, lorsque vous ne lisez pas des scénarios, lorsque vous n'êtes pas au téléphone avec des réalisateurs, lorsque vous ne rêvez pas d'un rôle, vous faites quoi?
En fait, je fais que ça. Je fais que ça. J'adore ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans le sud, comme tout le monde, me mettre devant une piscine et je m'ennuie au bout de 2 jours. Donc, je lis des romans, je lis de la littérature, où je prends des avions, je voyage. Mais en fait, je suis bien que quand je tourne.
Que lorsque vous tournez. Ouais. Pour fêter le déconfinement, quelle est la toute première chose que vous avez choisi de faire, Elsa Zilberstein?
Qu'est-ce que j'ai fait?
La toute première, hein?
Eh bien, je suis allée au café. Et j'ai fait
sur
une
terrasse.
Et j'ai dit, monsieur, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un Coca Light, un jus de pamplemousse, un jus d'orange, un jus de citron, un verre de rosé, un café crème?
Je l'ai vu, tête à claque, parfaite.
Un verre de vin blanc et un verre de rouge. Il m'a dit, mais vous êtes toute seule? Et j'ai dit, oui.
Non, mais on sait qu'une actrice, c'est... Voilà, et plusieurs, c'est beaucoup de femmes à la fois. Jean Dujardin, qui a été votre partenaire dans 1+1 de Claude Lelouch, Jean Dujardin dit que vous n'avez peur de rien, en tout cas, devant les caméras. Dans la vie non plus, vous, l'ex timide, affreusement timide, vous n'avez peur de pas grand-chose?
Dans la vie, c'est plus compliqué. Ouais, je suis bien plus timide qu'on ne pense. Jean, je l'adore et lui non plus n'a peur de rien. Et c'est ça que j'aime chez Jean, c'est que c'est un audacieux et que j'ai adoré jouer à ses côtés. J'ai adoré, c'était le partenaire idéal, Jean. J'ai trouvé que c'était absolument merveilleux de vibrer avec lui, d'inventer avec lui. On était comme deux animaux, c'était fabuleux. Donc voilà, c'est ma petite phrase sur Jean.
Mais dans la vie, vous êtes beaucoup moins vaillante que devant les caméras?
Non, je le suis quand même. Je suis une inventive de la vie. Donc quand vous me disiez qu'est-ce que vous faites, j'invente la vie tous les jours. J'essaie que chaque journée ne ressemble à rien. Par exemple, j'adore les fleurs. Je me suis fait une super terrasse avec plein de fleurs.
On a vu des camélias, on a vu.
Donc j'essaie d'inventer la vie pour qu'elle ressemble à du champagne tous les jours.
Combien de temps à l'avance connaissez-vous les défis dans cette vie d'actrice à remporter? Vos projets, ils vous amènent jusqu'en 2022, jusqu'en 2023?
Là, jusqu'en juillet 2021.
Jusqu'en juillet 2021. Bon, alors, chère Elsa, avant qu'on ne se quitte, parce que ça passe vite avec vous, mais si un jour, dans un restaurant, le hasard... Mais vous n'aimez pas ce mot. Mais
si, j'adore ce mot. Isabelle, j'adore.
Il vaut mieux croire en sa chance.
Je ne crois pas au hasard. Vous vous trompez. J'adore le hasard parce qu'il est signifiant, je trouve.
Bon, alors très bien. Donc, je garde ce mot. Si un jour, dans un restaurant, le hasard vous place à une table juste à côté de celle de Woody Allen... Que faites-vous?
Ah non, je ne vais pas raconter l'anecdote. Si. J'ai trop honte. J'étais à
Cannes.
Ça a eu lieu.
Je ne savais pas, c'est merveilleux.
Je me suis plantée en beauté, alors là, c'était grotesque. Là, vous me dites que si j'ose pas, mais alors là, c'était une catastrophe. Non, je suis allée lui parler, j'avais bu 3 verres de champagne, j'étais complètement... C'était grotesque.
Non, mais c'est merveilleux,
ça me fera des souvenirs. J'ai raconté à Claude Lelouch, le lendemain, j'ai dit, je me suis ridiculisée devant Woody Allen.
Et que vous a dit Claude?
Mais c'est pas grave, il dit, c'est rigolo, il ne se rappellera pas, voilà. Enfin, moi, je m'en rappelle. C'était comique.
Bon, et la prochaine fois, sans avoir bu de champagne, vous lui direz quoi à Woody Allen?
Oh, mais je l'admire tellement. Pour moi, c'est toutes mes sources d'inspiration. C'est Judy Davis, c'est Marie et Femme, c'est Manhattan, c'est l'humour dans la gravité dans l'humour. C'est Diane Keaton, c'est l'amour qu'on cherche, c'est la profondeur, c'est la dérision, l'ironie, New York... Cézanne.
Voilà. Quelque chose me dit que dans pas longtemps, vous allez vous retrouver voilà, à une table à côté de Woody Allen. En attendant, Adorable, une comédie de Solange Sicurel dans laquelle vous affrontez le tsunami de la crise d'adolescence de votre fille de 14 ans, sort en salle le 29 juillet avec Lucien Jean-Baptiste, avec Max Boublil, avec Hélène Vincent et Yoni Matos. Je vous souhaite un très 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 bel été.
Merci Isabelle.
Et puis je rappelle bien sûr que cette émission baptisée Il n'y a pas qu'une vie dans la vie est à réécouter selon votre humeur en podcast. Voilà, bel été à
merci
vous.
Merci Isabelle, merci.